Programme noétique pour esprit moderne.
Radio Livre, Radio Belle.
Je t'en prie, c'est comme chez toi.
Vous êtes mon invité.
Nous sommes les nouveaux mondes.
Je vous en prie.
Allez.
Ah, te voilà. Nirina, comment ça, t'es une enfant sauvage? Comment ça, t'as pas été à l'école? Nirina Metz avec nous et découvrons maintenant son parcours. C'est la limerence dans cette émission. Elle signe ce moment, ce fragment que nous découvrirons tout à l'heure. Alors, c'est quoi ton parcours, Nirina?
Alors, mon parcours, donc je suis née à Madagascar en 1990, d'où mes goûts musicaux un peu particuliers en termes d'eurodance. Voilà, je suis un enfant des 90s.
Il n'y a pas de problème.
On accepte tout ici.
Oui. J'ai vécu à Madagascar toute mon enfance et la particularité, c'est que mon père travaillant au milieu de nulle part dans la brousse, je n'utilise pas cette expression pour exagérer, mais j'ai bien grandi dans la brousse.
Quel était son travail?
Alors, le travail de mon papa, c'était la crevette. Il gérait une exploitation de crevettes, une écloserie, de gambas de Madagascar. Donc, très très bonne crevette. Donc, j'ai des super recettes de crevettes et j'adore manger de la crevette.
Super, une recette rapide.
Là, tu veux une recette rapide?
Bah oui, il est midi.
Ah, bah, génial. Tu prends des crevettes crues, tu les fais revenir avec du gingembre, de la coriandre moulue, de l'ail et des oignons. Et après, tu mixes tout ça avec du beurre, ça te fait une terrine de crevettes et c'est très très bon.
C'était la recette de crevettes de Nirina.
Je peux vous avouer que je n'ai jamais mangé de crevettes de ma vie.
Ah. C'est pas grave, ça veut dire que tu aimes
C'est des insectes de la mer.
Exact, je ne mange pas d'animaux.
Tu connais en français l'expression « je me suis fait une crevette » ?
Non, je ne connaissais pas.
Bah, tout est bon sauf la tête. C'est ça la crevette. C'est parce que Camille, elle aussi venant d'une contrée anglophone, ne connaît pas toutes les expressions françaises que nous découvrons chaque semaine un peu plus loin. Voilà. Ah tiens, je me suis encore tapé une crevette. Et là, tu peux dire « oui, t'en as encore entre les dents ». Donc tu n'as pas été à l'école, tu as été élevé dans la brousse, comment ça se passe, ça t'apprend à compter les bananes enfin,
Oui, bah écoute, il y a un organisme qui s'appelle le CNED, qui permet de faire de l'école à distance en fait, du coup c'est ma mère qui faisait l'école.
Oui, bah, ça reste souvent, français, l'éducation obligatoire.
Mais voilà.
Ouais, tutrice donc.
Ma mère est une tutrice, ouais.
Okay. T'étais un peu seule quand t'étais enfant ou pas? Alors, tu jouais avec d'autres enfants?
Non,
des animaux.
Moi j'ai très peu sociabilisé parce que du coup j'ai deux petites sœurs et on était quasiment que toutes les trois et on avait de rares contacts avec d'autres enfants. Enfin, c'était très peu de contacts avec d'autres enfants et quand nos parents nous envoyaient genre en ville chez leurs parents ou l'été, quand on revenait en France, on avait les cousins ou les enfants des amis de mes parents. Mais ça se passait pas forcément toujours très bien parce que forcément l'enfant peut être un peu cruel avec les gens différents.
Surtout quand il passe son temps avec plus d'animaux que d'êtres humains.
Voilà.
Ça aide à rester instinctif. Et cette île, Madagascar, oui, a souffert de la colonisation, on peut le dire.
Oui.
Et donc toi, tu te positionnes par rapport à ça assez vite.
Alors, la colonisation, pour moi, c'est un sujet qui est un petit peu particulier car ma famille a une histoire coloniale. Je suis la cinquième génération à être née sur le sol malgache. Bon, voilà, c'est QFD. Après, moi, j'ai du mal à me positionner par rapport à la revendication de mes origines dans le sens où est-ce que je suis malgache, est-ce que je ne suis pas malgache. J'ai pas la nationalité malgache, j'ai que la nationalité française. Mais bon, après, c'est un pays dans lequel j'ai grandi, dans lequel j'ai vécu. J'en connais la culture, j'en parlais la langue à une époque. J'ai tout perdu aujourd'hui. Mais voilà. Mais d'un autre côté, j'ai vécu une réalité un petit peu transformée de par le fait qu'on était quand même privilégiés, donc des blancs en Afrique. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, en Afrique, les expatriés, comme on dit, même quand ce sont des immigrants, on appelle ça des expatriés parce qu'ils sont blancs. Mais il y a une espèce de néocolonialisme qui existe toujours et il y a une vraie fracture sociale car il y a énormément de disparités financières, tout simplement. Tu as des pauvres très pauvres et une catégorie de la population qui est quand même beaucoup plus mieux lotie. Et c'est vrai qu'avec tous les avantages quand tu es blanc, j'ai du mal à me dire que j'ai vécu vraiment la culture malgache telle qu'elle. C'est une culture néocoloniale à Madagascar. Et du coup, ça, je ne sais pas encore très bien comment me positionner par rapport à ça.
Mais est-ce que ce ne serait pas ça qui a lancé cette réflexion contre l'oppression et ces sujets qui te tiennent beaucoup à cœur?
Alors, j'ai énormément de chance d'avoir un père qui a toujours été très anticolonial et très réaliste vis-à-vis de ce qu'avait fait sa famille et la réalité de la, de la chose et de la colonisation. Contrairement à l'autre partie de ma famille qui est beaucoup plus dans l'idéalisation, en mode non, mais on était là pour les aider. Bon, c'est un débat.
Les civilisateurs.
Voilà, j'ai énormément eu de chance d'avoir mon père qui a toujours été très, très critique de tout ce qui s'est passé en Afrique de par la colonisation et qui nous a mis dès le plus jeune âge dans ces dialectiques un peu anti-système.
Questionner le système et,
c'est ça,
et
tout à fait.
Ouais, le remettre en question.
Qu'est-ce qui se passe ? Comment tu te retrouves à Paris ?
Je me retrouve à Paris car, gros cliché, mais ce que j'adorais faire, c'était habiller Barbie. Donc, j'ai commencé à vouloir faire de la mode. Et,
Où est Barbie ?
À chercher où est Barbie aussi. Yassification, bimbofication, tout ce que tu veux. Mais du coup, j'ai voulu faire de la mode et je suis venue à Paris pour faire mes études dans une grande école de mode à Paris.
Que tu peux citer ?
Parsons, donc c'est une grande école de mode américaine et j'ai fait le campus de Paris.
Et ensuite ?
Et ensuite, ensuite, j'ai travaillé dans la mode. Aujourd'hui, je suis styliste freelance et je travaille de plus en plus dans le costume, dans les shows et je fais beaucoup de choses. Je suis un petit Pokémon. Mon boss m'appelle le Pokémon.
Pourquoi c'est important la fashion, la mode ?
Alors pour moi, ce que j'aime dans la fashion, la mode, c'est plusieurs choses. La première étant que c'est quand même quelque chose qui accompagne énormément la société. On a vu beaucoup de révolutions être accompagnées par des changements dans la mode, dans l'habillement. Ça reste quand même une
avant-garde, quoi.
Bah, t'as l'avant-garde, mais surtout, ça accompagne beaucoup de grands tournants sociétaux. On peut citer notamment l'avant-révolution française, où on a commencé à voir les robes blanches beaucoup plus légères, le corset qui sautait pour aller dans cette idée de plus de légèreté, etc. Et puis il y a eu la révolution française après. Bon, là, j'en parle très mal parce que j'ai pas vraiment préparé mon discours.
Tu fais des raccourcis, mais...
Je fais un gros raccourci. Mais vraiment, quand on étudie les gros mouvements, par exemple, les femmes qui ont commencé à porter des costumes pantalons, les couturiers qui ont commencé à faire changer ce genre de choses, ça a accompagné les révolutions sexuelles, les révolutions féministes, etc. Donc l'habillement, c'est un statement. Aujourd'hui, quand on s'habille, qu'on fasse le choix de pas s'habiller ou de s'habiller, ça reste un statement qui veut dire quelque chose, même quand on essaye de ne pas
de
le
pas
faire.
De ne pas s'habiller, oui, bien sûr. Oui.
Enfin, ça reste inhérent à la société, à comment on se présente. Deuxièmement, je trouve que la mode, ça reste des très beaux métiers.
Créatif.
Artisanat, ouais.
D'art. Et puis t'as un vrai artisanat d'art, un vrai savoir-faire qu'il est important de garder. Enfin, c'est d'une beauté incroyable.
Savoir-faire d'exception, souvent.
Voilà, et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup ce que je fais en ce moment, car je travaille vraiment beaucoup plus, moins dans la grosse partie de la mode industrielle, mais maintenant je fais plus des choses plus couture, et là tu vois vraiment le beau travail, et c'est ça qui me plaît, c'est vraiment revaloriser des techniques. Et tout ça. Et dernière petite chose, parce qu'en ce moment c'est la Fashion Week, mais c'est
exactement
aussi la guerre en Ukraine. Et on a ce côté un petit peu, il y a la Fashion Week qui arrive, donc ça fait partie de notre métier. Il ne faut pas oublier que c'est une industrie dégueulasse, mais aussi c'est une très belle industrie qui donne qui donne un métier à beaucoup de gens. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a toute cette question de, il y a la guerre en Ukraine, mais en même temps, on est en train de regarder des stars sur des défilés.
Bien sûr.
Et ça, c'est un sujet qui est intéressant dans le côté...
Et du coup, t'en penses quoi, toi ? T'as quand même participé à la Fashion Week ?
Oui, j'ai participé à la Fashion Week. J'ai aidé sur 2-3 shows. Mais moi, je pense que c'est important de laisser la mode continuer à vivre parce que, effectivement, elle a son importance.
Là, c'est entre superficiel.
Par contre, c'est vrai que moi, le côté superficiel de prendre en photo des stars en train de poser, c'est vrai que dans le contexte actuel, je trouve ça peut-être pas aussi important que.
Bah, c'est assez schizophrène,
voilà.
Presque.
C'est très schizophrène. D'ailleurs, quand on regarde sur les réseaux sociaux, on a image de guerre, crème.
Kim Kardashian.
Pub pour de la crème, ouais. Image de guerre, Kim Kardashian, pandémie, Kim Kardashian.
Absurdité totale.
C'est complètement absurde. On vit dans une très drôle d'époque. Je pense pas qu'il fallait cancel la Fashion Week. Je pense qu'il aurait peut-être fallu être un petit peu plus low profile, par contre.
Moins shiny, quoi.
Moins superficiel. Shiny et moins de récupération parce que il y a quand même eu beaucoup d'attitudes que j'ai trouvées un petit peu bizarres vis-à-vis de cette guerre en Ukraine et de gens qui disaient j'ai fait mon make-up bleu et jaune. Oui, t'as fait quoi d'autre en fait pour aider les réfugiés? Je ne sais pas.
Du coup, ce que t'as vu qui était inspirant, parce que tu l'as dit bien précédemment, que ça avait son intérêt, qu'il y avait une sorte de carte postale ou en tout cas de polaroid qui disait beaucoup sur son temps, de ce que t'as vu, qu'est-ce qui a retenu ton intérêt qui pourrait être.
Sur la Fashion Week le défi les Balenciaga, je pense que c'est un des plus beaux défilés. Je pense que tout le monde
en
parle.
Celui sous la neige.
Celui sous la neige, je pense que c'est vraiment le défilé de cette Fashion Week.
Pourquoi ?
Déjà parce qu'il était extrêmement fort, que le propos de Demna Gvasalia était, c'était. Il n'a pas créé le défilé depuis la guerre en Ukraine, hein, parce que c'est des mois de travail, bien évidemment. Mais il a su rebondir, il a su intégrer ça dans son travail. Et somme toute, ce qui est assez impressionnant, c'est que le défilé, c'est un monde un peu post-apocalyptique, correspond au final très bien avec la vibe actuelle. Donc il a été relativement bien avisé de... Voilà.
Oui, c'est ça,
et les images sont fortes, les images sont belles. Et n'étant pas une énorme fan de Balenciaga d'habitude, ça reste quand même le défilé qui m'a marqué cette Fashion Week. Donc bravo et well done. Et très émouvant la note du directeur artistique.
Dernière question, parce que discuter avec toi de ta personne sans évoquer tes ongles semi-permanents serait une faute professionnelle. C'est quoi ce que tu as au bout des ongles qui me donne presque envie d'en avoir?
Faux ongles, vraie gifle.
Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire?
J'ai des ongles qui font, je pense, 2 cm là, 3.
Ouais, on est sur ça, ouais. Bon 3, je dirais
un
même.
Un bon 3 cm.
Assez pointu,
ouais,
d'ailleurs.
C'est une
alors
forme stiletto.
Pour ceux qui ne les voient pas encore, on les prendra en photo. Donc, on a plusieurs couleurs. Ils sont assez pointus, très très pointus, exactement.
Et ils sont surtout peints.
Ils sont peints à la main par Macloé, ma nail artiste préférée à Paris. Elle est géniale, on l'aime, on l'adore. C'est une nail artiste de talent qui m'a fait des ongles hentai. Donc en fait, on a une femme en train de se faire masturber par un poulpe sur mes ongles en direct. Voilà.
Hentai, c'est du pornographie japonais animate, pour ceux qui ne savent pas.
Et du coup, t'arrives avec ton image et elle te fait le truc, quoi.
Oui. Et des fois, on discute un peu des projets en amont. Enfin, voilà, on se fait plaisir et on adore le nail art. Donc,
C'est complètement dingue. Merci, Nirina, pour ce temps passé à parler de toi. Tu reviens dans pas longtemps pour La Limerence avec un titre aujourd'hui qui est...
Capitalisation des luttes.